Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL, Eric Silvestro.
Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner pour ce On refait le match sur RTL jusqu'à 19h30 avant le grand multiplex RTL, le Parisien aujourd'hui en France. Philippe Sanfourche, Christian Olivier, un petit coucou à Denis Balbir qui est avec les filles de l'équipe de France sur W9 ce soir. Pour le France-Brésil, on en parlera tout à l'heure. Nous, on parlera du coronavirus qui contrarie et comment le calendrier du football et notamment celui du Paris Saint-Germain dont le match à Strasbourg qui était programmé aujourd'hui à 17h30 a été reporté. Quelles conséquences sur la préparation du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund, on se posera la question. Le risque d'un effondrement de l'OM est-il réel après sa nouvelle contre-performance à domicile et malgré le matelas d'avance en Ligue 1 sur Rennes et Lille notamment, et puis Mbappé et Neymar privé de JO, on y reviendra également. Quelles conséquences pour le Paris Saint-Germain et pour les joueurs. À mes côtés aujourd'hui, David Aiello de Yahoo.
Bonsoir mon cher.
Très belle chemise.
Merci.
Toujours ça, très élégant.
Vous donnez rendez-vous sur RTL.fr.
Ouais, parce que...
Mais en vidéo. En vidéo, on nous suit énormément en vidéo sur RTL.fr. Sébastien Targo lui a opté pour un pull vert bleu marine.
Très élégant.
Très joli aussi.
Bah, écoutez,
bonsoir.
C'est gentil.
De la chaîne L'Équipe.
C'est l'émission de mode ce soir.
Très bien. Et vous, vous êtes en bleu et orange. C'est
moi, je suis DDE. S'il y a besoin d'intervenir, s'il y a une urgence.
Je pense que les gens sont heureux, vous voyez, dans leur petite voiture, en revenant de la plage, comme aurait dit un ancien présentateur de cette émission.
Que l'on salue aussi Pascal Pro, que vous retrouvez évidemment avec les auditeurs à la parole tous les jours, toute la semaine. Bonsoir Bruno Constant.
Bonsoir, bonsoir.
Notre voix anglaise, mais pas que, notamment bien dans sûr. Le Conseil de l'Europe le dimanche soir sur RTL lui aussi. Voilà, maintenant je le dis à tout le monde. Chemise bleu marine aussi.
Tradition anglaise.
Très élégant.
Chemise, bien sûr. Normal.
Mais bon, la plus élégante, on a gardé le meilleur pour la fin, évidemment. Cindy Colmenares est avec nous. Bonsoir Cindy.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Voilà.
Quel charme.
Le décor est planté, tout va bien, on se retrouve juste après la pub. Affûter aux arguments.
Il n'a pas d'éclime atténu, hein, vous avez remarqué.
Non, parce que je veux que les auditeurs restent concentrés, notamment ceux qui sont au volant et qui conduisent. Voilà, il faut qu'ils écoutent les propos et qu'ils restent concentrés. À tout de suite.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Éric Silvestro.
On refait le match ce soir jusqu'à 19h30 avec Sébastien Tarago, David Aiello, Cindy Colmenares et Bruno Constant. Le coronavirus, messieurs, dames, contrarie donc le calendrier du football. En France, le premier match reporté, c'est Strasbourg-Paris-Saint-Germain qui était programmé aujourd'hui à 17h30. Alors d'abord, tout simplement, est-ce que cette décision est logique, compréhensible, enjeu de santé publique ? David.
Bah, ça me paraît assez cohérent. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'experts en médecine ces derniers temps en France, en organisation, beaucoup de préfets en puissance quelque part. Donc moi, j'ai plutôt envie de faire confiance. Les préfets, les autorités ont décidé que les conditions n'étaient pas réunies, notamment parce qu'on rappelle il y avait un quart des spectateurs qui venaient d'une zone à risque.
Du Haut-Rhin, foyer infectieux.
Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans une polémique. Je pense pas que l'heure soit la polémique sur ces décisions-là quand ça concerne le football vis-à-vis de problèmes de santé publique.
Oui, mais c'est pas inintéressant d'aller quand même plus loin dans le sujet parce que moi je suis pas spécialiste en effet et je vais pas m'improviser spécialiste. Mais hier, par exemple, j'ai participé à une émission sur la chaîne L'Équipe où Patrick Peloux était présent, grand
urgentiste,
voilà. Et il nous explique, donc je me range à ce qu'il dit, il nous explique que nous rentrons dans un stade 3.
Pas encore annoncé, mais
la réalité, c'est que nous y sommes, selon lui, je le cite encore une fois, et que donc dans ce stade 3, en fait, il n'y a plus rien à faire. Donc il faut continuer à vivre. Mais attends, juste que je finisse au moins sa pensée, il n'est pas là.
Je l'ai lu, c'est pour ça que
mais oui,
vas-y, continue.
Oui, mais vas-y. Il n'est pas inintéressant quand même.
Bien sûr.
Il y a deux choses. Soit tu bloques tout, donc restez chez vous, hein. Ne faites plus de courses non plus, hein, parce que si tu vas faire des courses, a priori, tu es en danger. Donc tu restes chez toi, et puis tu manges ce qui reste, et puis on verra plus tard. Soit tu continues à vivre, et ce virus, effectivement, va se propager. Ce n'est pas très agréable. Nous avons tous quelques craintes, évidemment. Mais c'est comme ça que ça fonctionne avec la grippe. Et donc, la vie continue. La vie continue parce qu'il n'y a rien à faire.
Les seules précautions, c'est lavez-vous les mains, éternuez dans votre coude.
Oui,
voilà, mais évitez les contacts.
C'est un grand docteur, me semble-t-il, un grand urgentiste, qui le dit. Je pense qu'on peut l'écouter. Je ne suis pas sûr que les décisions qui sont prises changent quoi que ce soit.
Alors, si polémique il y a, mais si
Juste pour finir, après je lâche la parole. Surtout, le monde s'arrête. La vie économique s'arrête. La vie sociale s'arrête. Ça aura des conséquences gravissimes. gravissime.
Alors, si polémique,
pour répondre sur ce point-là très rapidement, moi, ce que j'ai entendu en réponse finalement à ce point de vue qui peut s'entendre, c'est que l'idée également actuellement, c'est de gagner du temps.
C'est fini.
Mais non, c'est pas fini parce que
c'est fini.
On est encore officiellement au stade 2.
Oui, mais officiellement, c'est pour gagner. L'idée, c'est préparer les gens.
C'est aussi de gagner du temps parce que tout un tas de points de vue, c'est intéressant de ralentir cette propagation.
Alors nous ne sommes pas médecins, donc on va essayer de comprendre aussi les gens.
Il faut arrêter les transports aussi. Attention, parce que par exemple cette année la grippe.
Non mais
je suis sérieux.
Les transports, c'est sérieux.
La grippe cette année a été moins importante que les autres années, notamment parce qu'il y a eu la grève des transports, par exemple en région parisienne et ailleurs. Mais ça a limité la propagation de la grippe. Arrêtons le métro.
On parle également, peut-être que la grippe a été moins forte aussi, parce qu'en parallèle, il y a ces virus, coronavirus, qui a pris de l'ampleur. Mais pour revenir au sujet, par rapport à PSG Strasbourg, il est vrai que ce qu'on aurait souhaité, même s'il n'y a pas débat par rapport à des soucis de santé, c'est qu'il y a un peu d'anticipation. Parce que les joueurs la prennent alors qu'ils sont déjà sur place. Certes, ce n'est pas un déplacement des heures, c'est juste une heure aller-retour, mais quand même, c'est des heures de déplacement.
Tu peux pas demander au préfet de caler son calendrier sur le vol du Paris Saint-Germain.
Ça aurait pu être anticipé.
Mais le match programmé donc ce samedi à 17h30, décision prise, annoncée officiellement par la préfecture hier soir à moins de 24 heures du match, sachant que le foyer infectieux dans le Rhin, on le connaît quand même, il date pas de hier soir. Est-ce que la Ligue et la préfecture auraient pu anticiper un tout petit peu, soit décider d'un huis clos, soit de reporter le match
huis clos, pourquoi ça n'a pas été mis sur la table? En plus, on savait, Maracino nous avait déjà prévenu en disant que ça serait pris au cas par cas et que ça dépendra des préfets. Pourquoi est-ce que la question sur un huis clos ne s'est pas posée alors qu'elle est en train d'être posée par rapport à PSG dans le monde?
Le PSG a tenté d'ailleurs de forcing pour jouer le match à huis clos pour pas bousculer trop son calendrier.
Parce que surtout les grands perdants dans l'histoire, c'est le PSG, on en parlera après, mais... Après, sur la décision du huis clos, moi je trouve qu'on est hyper mal placé pour en parler. J'ai écouté effectivement Pelot hier, c'est très intéressant. Et moi, ce qui m'a choqué effectivement, c'est l'incohérence entre la décision le soir même, donc d'annuler, de reporter ce match, et lui qui t'explique qu'en fait on a déjà passé le stade 2 et que ça sert plus à rien. Donc pourquoi si on reporte des matchs de foot, pourquoi on bloque pas toutes les salles de cinéma, de théâtre, tous les rassemblements publics?
De toute façon, plus personne y va, ils vendent plus de billets. Donc gens d'eux-mêmes ne vont plus au théâtre, malheureusement.
Moi, je sais pas si c'est important, mais... le match. Ce que je comprends pas effectivement, c'est l'incohérence des décisions.
Moi, ce qui m'a interpellé, je sais pas vous, mais cette semaine, c'est quand j'ai vu 40 000 personnes à Geoffroy Guichard sur la pelouse, tout le monde s'embrassant, faisant des bises aux joueurs.
Mais attention, pas de marathon des paris.
À un moment, il y a 50 000 personnes, ils viennent tous sur la pelouse, t'as l'impression que tout le monde s'embrasse.
Bon, c'est trop tard, ils étaient déjà en tribune ensemble, donc ils sont sur la pelouse.
Mais les joueurs, par contre, ils se sont retrouvés avec 15 personnes qui les embrassaient.
Ça n'allait plus loin, les supporters qui ont pu rentrer sur les terrains et embrasser Neymar pour se prendre en selfie avec lui, là aussi, on peut dire qu'il y a un risque. Et on reporte les marathons des paris, on s'est dit, et en parallèle on voit effectivement ces images avec tous ces gens collés les uns aux autres, on se demande mais où est la logique, parce qu'il faut l'avouer, en réalité, même s'il y a des enjeux de santé, je pense qu'on comprend plus grand chose par rapport aux messieurs qui sont
en train, on avait un baromètre sport donc ça pour RTL et Groupama qui montrait que les gens critiquaient aussi l'incohérence de les différences de décision selon les sports, selon les salles, selon les villes, selon les stades, selon les jours, enfin il n'y en a aucune pareille de décision.
Mais encore une fois, moi, si tout le monde était d'accord et disait il n'y a plus jamais de foot, il n'y a plus de foot pendant 4 mois, de basket, de tout ce que vous voulez, moi, j'aurais aucun souci avec ça.
La catastrophe.
J'aurais aucun souci avec ça parce que moi, je me range, encore une fois, derrière l'avis des spécialistes. Mais le fait est que les spécialistes sont à minima pas d'accord entre eux. Mais la plupart, quand même, expliquent que. On va y passer, que ce virus se propage et que de toute façon, c'est trop tard. Donc moi effectivement, je ne comprends pas. Je pense juste que les préfets, les politiques ont aussi en considération l'aspect communication. Et donc d'essayer de ne pas créer trop de panique. Donc des fois, ils reportent pas. Moi, j'ai tendance à croire que quand la parole est claire et que les gens, on leur dit les choses clairement, il y a moins de panique. Voilà. Je Après, pense que moi, là, je, c'est là je, la panique.
Ouais, je ne vais pas critiquer la position de la France. Je trouve que, justement, comme tu disais, elle est louable. Ils essaient déjà à leur façon. Et surtout parce que, moi, en étant vénézuélienne, si vous voulez, Nicolas Maduro, il pense qu'il s'agit d'un complot. Il y avait un ministre qui parlait que c'était une bactérie et non un virus.
C'est les Américains qui l'ont envoyé, non ?
Donc, à la fin, oui. Donc, à la fin, je trouve que, quand même, la France reste un pays assez sérieux avec des bons hôpitaux. Les choses sont en train d'être traitées bien. Mais oui, il y a une certaine incohérence qui fait qu'à la fin, on est amené à débattre, à se poser des questions parce qu'on ne prend pas grand-chose à pourquoi les décisions sont
Alors, en train avant qu'on évoque notamment les conséquences sur le Paris Saint-Germain, un petit mot aussi de ce qui s'est passé avec les filles, parce qu'on a 300 spectateurs de l'Oise qui avaient acheté des billets pour aller à Valenciennes ce soir au Stade du Hainaut voir France-Brésil, qui ont reçu un coup de téléphone de la fédération en disant « Vous êtes... » Alors d'abord, s'il vous plaît, ne venez pas au match. Mmh. Et le lendemain, en fait, vous êtes interdit tout simplement.
Mais là, ça n'a pas de sens. Parce que,
alors, excusez-moi, c'est pareil, juste, le match va se jouer avec du public, mais il y a 300 personnes pour qui, malheureusement, ont rentré leur adresse pour réserver leur billet, qui sont interdits.
Eric, je ne sais pas si vous allez quitter ce studio ensuite. J'essaierai de maîtriser cette émission jusqu'à 19h30 seul. Mais j'étais dans l'Oise il y a 15 jours, il y a 10 jours. J'ai suivi Chambly pendant une semaine.
Qui a joué à huis clos d'ailleurs contre Le Mans hier.
Qui ne sera pas sur Chambly, mais en tout cas, j'ai suivi Chambly pendant une semaine. J'y étais tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait ? Si moi j'achète un match. Si moi j'achète un billet pour le match à Valenciennes, est-ce que moi on m'interdit ?
Bah non,
parce que j'habite dans le 92.
Bon, je vous propose une décision collégiale. Est-ce qu'il doit quitter les. Non, mais en fait, la réponse par rapport à Strasbourg, je comprends un peu la logique parce que c'est vrai qu'il s'agit. Pardon, pas de Strasbourg, des Valenciennes. On parle du match féminin de l'équipe de France contre les Brésil. C'est vrai que c'est un cluster. Donc c'est une région qui est très touchée. Les personnes peuvent être amenées à propager un risque dans une autre région. Donc, je comprends qu'il y a une décision dans ces sens-là.
C'est du fichage, carrément, dans
oui,
le cas
Oui, mais
précis,
bon, enfin... faut trouver des solutions.
Très vite, David.
Non, mais je pense que comme il y a, par rapport à ce que disait Sébastien à l'instant, il y a quand même des mesures à prendre. Alors certainement sur des, effectivement, on peut pas tout contrôler. Donc à un moment, il y a des mesures qui sont peut-être symboliques, mais qui concernent des grandes populations, enfin des grands foyers de population. Donc il me semble que c'est quand même important qu'il y ait certaines mesures.
Merci d'être venu en tout cas, Sébastien Tarago. Ce sera le quart d'heure le plus court de l'histoire de la radio.
Vous pouvez pas. J'en ai laissé partout.
Ouais, c'est bien le problème. Allez, on marque une courte pause et on revient, on parle des conséquences justement de ce report du match à Strasbourg sur le PSG.
RTL, on refait le match.
RTL, on refait le match. Éric Silvestro.
On refait le match jusqu'à 19h30 avec Sébastien Tarago de la chaîne L'Équipe, David Ayello de Yahoo, Cindy Colmenares et Bruno Constant, notre voix anglaise sur RTL. Donc les conséquences, messieurs dames, sur le Paris Saint-Germain qui ne peut pas préparer son match, en tout cas prendre du rythme, notamment pour Neymar, avant le match contre Dortmund mercredi. Dortmund qui est en train de jouer d'ailleurs en ce moment un gros choc en Allemagne sur la pelouse de Mönchengladbach. Dortmund qui mène déjà 1-0 après 18 minutes. Très beau but de Thorgan Hazard. Conséquences sur le PSG, c'est
Certains disent que ça leur permet de se régénérer. Moi, je trouve ça très ennuyeux parce que aujourd'hui, on a un garçon qui s'appelle Tino Kerrer qui va jouer arrière droit parce qu'il n'y a pas d'autre choix à cause des blessures. Ce garçon a joué.
Dagba blessé, Meunier suspendu.
Oui. Vous avez raison. Il a joué en 7 mois 2 matchs plus 12 minutes à ce poste. 2 matchs plus 12 minutes en 7 mois. Ok, intéressant. En défense centrale, cela n'aura pas été préparé.
Thiago Silva.
Au milieu de terrain, idem.
Verratti,
et on rajoute quoi ? On rajoute Neymar, qui lui aura joué un match à Lyon, alors qu'il fallait absolument qu'il en joue deux, puisqu'on nous a expliqué qu'à Dortmund, il avait été mauvais comme un cochon parce qu'il n'avait pas de rythme.
Il a joué 3 matchs.
Bordeaux, parce que
matchs,
le club n'avait pas voulu qu'il joue
1er février. 3 matchs en 5 semaines.
3 matchs depuis le 1er février. Donc c'est un souci pour le Paris.
Bruno Constant.
Ça peut être vu comme une catastrophe pour le PSG. Mais moi, je trouve que ça met à mal surtout le manque d'anticipation et la préparation de Tourelle. Le match de Lyon, on s'attendait à ce qu'il y ait une préparation grande nature.
Il
ne
pouvait pas savoir que le match de Strasbourg allait être reporté.
Mercredi, tu savais qu'il y avait des doutes.
Mais de là, ce qui soit reporté,
t'étais
parce
pas à l'abri. On entendait des hypothèses de report, de match à huis clos, etc. Il pouvait y avoir un risque.
C'est quand même compliqué de faire un 11 en se disant je vais faire ce 11 en pensant que ça va être.
Au moins, tu mettais Kerrer qui était sûr de jouer à droite contre Dortmund, tu le mettais à droite.
Oui, parce que c'est lui qui. Clairement, c'est lui qui va jouer à l'absence de Meunier, c'est lui les remplaçants. Moi, j'ai été parmi.
Quitte à changer contre Strasbourg pour faire souffler un peu s'il y a des fatigues.
Oui,
faire
moi,
des matchs.
Pour moi, les vrais matchs, je suis un peu plus optimiste parce que pour moi, les vrais matchs des préparations du PSG, c'était cette rencontre face à Lyon. Je trouve que
c'est Damien, notre réalisateur, qui fait des petits bruits. C'est un bruiteur, en fait. Il a un vrai talent. Il est ventriloque, en fait, dans la vie. Bon. Mais sinon, de temps en temps, il est technicien.
Il s'énerve derrière sa vitre pour expliquer aux gens.
Il crie tellement fort qu'on l'entend au travers de la vitre.
Alors,
voilà. Eh oui, on t'entend.
Oui, on
t'entend. Continue.
Donc, en fait, moi, j'étais parmi les personnes qui disaient que les manques de rythme, qu'il n'y aurait pas des manques de rythme, finalement, pour Neymar, qu'il fallait les préserver. Et suite au match aller, je me suis dit, finalement, j'ai eu tort, il fallait préserver ces joueurs. Mais là, on parle quand même d'un joueur professionnel. Je ne pense pas que l'effet d'être absent à un match, Neymar, il va vraiment être en perte de rythme. La situation n'est absolument pas la même.
Il a déjà de rythme, en fait.
C'est ça, mais c'est pas qu'il a perdu.
Il avait été flamboyant en janvier. Là, on a vu contre.
À Lyon, il y a eu un coup de moins bien, c'est clair. Mais on ne peut pas comparer les situations parce que Neymar, il avait passé très longtemps
Bordeaux,
sans jouer.
Bon plus, hein.
Là, il a quand même fait quelques matchs, il a quand même joué. On s'attend à qu'il puisse,
un entraînement un peu plus intensif. Il a joué 3 matchs en 5 semaines. Moi, je ne vois pas comment il peut être à 100% en jouant 3 matchs en 5 semaines.
Est-ce que le plus gênant, ce n'est pas le PSG? On nous bassine depuis des mois, des années même, mais encore plus cette année, en disant l'objectif Ligue des Champions, Ligue des Champions, Ligue des Champions, février, 8e de finale, février.
600 millions sur la table, c'est.
Et à l'arrivée, au match aller, on se retrouve avec un système tactique un peu innovant qui a été testé sur une mi-temps avant. Et là, on se retrouve avec des joueurs qui sont soit suspendus, soit blessés, soit de retour de blessure, qui n'ont pas de rythme, etc. On a l'impression que pire, c'était pas possible, alors qu'on avait 6 mois pour arriver dans les meilleures conditions.
Sauf pour Thiago Silva, parce que lui, il va profiter du fait d'avoir finalement les joueurs et de faire ses entraînements intensifs, parce que de toute façon, il va pouvoir être avec eux.
Est-ce qu'on a une sécurité sur l'état physique de Thiago Silva? C'était musculaire, sa sortie contre Bordeaux.
J'ai évolué positif pour
appuyer ce que vous disiez, Eric. C'est sûr qu'on ne peut pas dire que Paris avance vers ce match avec beaucoup de certitude. Et notamment, effectivement, sur le cas Neymar, sur lequel je voudrais revenir, juste pour évoquer quand même, il a une clé à mon avis quand même dans son jeu, c'est que certes il a pas de rythme, mais il faut qu'il se mette dans la tête qu'il a pas le rythme et qu'il cherche pas à surjouer comme il a pu faire ces derniers matchs.
Et oui, mais c'est quand il est pas bien, t'as raison.
Mais non, mais justement, plus il est mal, il essaye d'en faire.
Et oui, mais quand il est pas bien, il a ce besoin-là et je ne suis pas sûr que ce soit facile de
non,
se limiter.
Non, mais je pense qu'il faut qu'il en prenne conscience et que.
Oui, mais je pense qu'il
a plutôt tendance à simplifier son jeu.
Quelqu'un va lui dire quand même,
ce qui est paradoxal.
Non, je pense que c'est compliqué pour lui parce qu'en fait, quand t'es pas bien physiquement, tu changes un peu. Tu forces et t'es persuadé que tu vas y arriver quand même.
Mais c'est ça la frustration qu'il a eu contre
Bordeaux. Neymar a une mauvaise image en France aujourd'hui, mais il a forcément lui aussi ce poids de son absence lors des deux dernières années. Soit il a un poids à titre collectif, soit à titre individuel, soit les deux. Peu importe. En tout cas, il a ce poids, donc il veut réussir. Et donc, c'est pour ça qu'il force.
Et finalement, la bonne nouvelle, c'est que Kylian Mbappé est dans une forme étincelante et c'est encore sur ce gamin de 21 ans que tout va reposer finalement.
Bah non.
Bah si. Bah pas que. Mais si, parce que. Mais non, mais.
Si ça repose que sur lui.
Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que.
Non, mais t'as besoin d'un bon aval.
Il y aura toutes les excuses pour les autres. Ils manquent de rythme, ils sont ci, ils sont là. Alors que lui.
Moi, je suis assez.
Donc ça va être encore tout ça.
Vous lui mettez la pression.
Mais bien sûr.
Non, mais c'est justement là. C'est le principal problème du PSG. C'est qu'on en revient toujours aux individualités. C'est soit Neymar, soit Mbappé, soit les deux. On parle de Thiago aussi. On parle jamais du collectif. Dans cette équipe du PSG, il n'y a pas de collectif. La force de toutes les grandes équipes, la force de Liverpool, la force du Real de Zidane, en Ligue des Champions, c'était le collectif.
C'est de savoir comment tu joues.
C'est de savoir comment tu joues.
Et ça ne change pas tout le temps, voilà.
C'est de savoir comment tu joues, c'est de savoir qui va porter le collectif. Et c'est un ensemble. Le meilleur match du PSG cette saison, c'était en début de saison face au Real Madrid. Je crois qu'il n'y avait ni Neymar ni Mbappé. C'était son milieu de terrain. C'était son milieu de terrain qui pressait, qui agressait. C'est l'intensité, la clé du match en Ligue des Champions.
Là où je trouve ça terrible en plus, c'est que par rapport à ce que tu pointes, Bruno, ce début d'identité collective, on l'a eu finalement quand il a installé un petit peu ce 4-2-4. Finalement, on a commencé à se dire, bon,
mais ça, c'est une hérésie.
Peut-être que c'est une hérésie.
Qui gagne en Ligue des Champions avec 4 attaquants?
En tout cas, il fallait.
Quelle équipe gagne en Ligue des Champions avec 4 attaquants?
En tout cas, à partir du moment où tu commences à installer ce jeu, il fallait aller au bout du truc.
Alex Ferguson, qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions. 2 fois. J'ai un doute, 99, 2008. Qui a gagné 2 Ligue des Champions. Qui a duré pendant 27 ans. Et qui t'explique qu'en Ligue des Champions, il changeait son système pour avoir un milieu renforcé parce que c'était la clé des matchs de Ligue des Champions.
Oui, mais après, tu peux passer Dortmund en 8e de finale avec un 4-2-4. Je veux dire, Monaco, t'as l'air de demi-finale avec 4 joueurs.
Le PSG n'a pas eu cette arrogance puisqu'il a changé justement au dernier moment.
Et peut-être
mais
attends,
c'est ça le problème.
Raison, je crois pas. Mais en tout cas, mais non, parce que incohérence encore une fois. Non, moi, je suis pas comme Bruno. J'espère qu'un jour,
une équipe gagnera la Ligue des Champions en jouant ainsi.
Mais oui, on peut l'espérer. Pour l'instant, c'est pas arrivé.
Tu as raison. La seule chose, c'est qu'au moins tu le travailles.
Et tu vas au bout.
Tu laisses pas Mbappé tout seul avec des ballons où il doit mettre des têtes contre des mecs qui font 1m90.
La connerie de changer le système au match aller. Là, en prévision du match retour, on travaille le 4-4-2. Donc on revient lié du 4-4-2. Alors que le seul système qui donnait la garantie de certitude, c'était le 4-3-3. C'est quand même incroyable.
Donc là, concrètement, on a dit Kerrer à droite. Thiago Silva, Kimpembe, si Thiago Silva peut jouer.
Et ça aussi, il faut peut-être en parler.
Parce que Marquinhos va jouer au milieu avec Gay, j'imagine.
Thiago Silva n'est pas là.
Non, mais là, on parlait de Thiago Silva.
Eric, pour moi, la question, elle est fondamentale. Même Thiago Silva veut jouer à tout prix ce match. Mais est-ce qu'il faut le faire jouer?
Tu
peux mettre Marquinhos.
Alors, tu mets qui au milieu?
Après, tu peux mettre Paredes Gay. C'est
formidable. Paredes Gay, me voilà rassuré pour le Paris Saint-Germain. Mais la vérité, c'est quoi? C'est comme le staff du PSG aujourd'hui.
Pour toi, mettre Thiago Silva après autant avec déjà avec le passif qu'il a dans les matchs de Ligue des Champions.
Ça fait plus qu'un jour d'absence.
On va pas revenir sur ce débat, mais vous avez tort. Mais bon, c'est pas.
Enfin bon, il y a quand même certains matchs.
Regarde le match aller, c'était pas le pire. Mais bon, peu importe.
Peu importe. En tout cas, même là, son manque de rythme, il sera criant.
En fait, vous avez depuis que Unai Emery a été l'entraîneur du Paris Saint-Germain, depuis maintenant on peut le dire, même Le Hoff a été craqué par l'autre fois dans son interview à France Football. La vérité, c'est que le frère de Unai Emery a passé sa vie à travers ses relais médiatiques à expliquer que Thiago Silva était mauvais et défendait bas. Thiago Silva a joué sous 5 sélectionneurs au Brésil, 89 sélections. Il a joué au Milan, il a joué avec Laurent Blanc, il a joué avec tous ses entraîneurs, il était titulaire. Et ben tous ses entraîneurs sont des nuls. Ancelotti est nul, tous les sélectionneurs du Brésil sont nuls, Laurent Blanc est nul. Mais les journalistes ami avec Igor Emery nous explique que Thiago Silva, il ne pourrait même pas jouer à Carquefou. Ok, pas de problème.
Cindy, pour conclure. Et là, on l'a énervé.
Pas du tout.
Et vous allez vous faire dépister en sortant, vous avez la fièvre.
Ça m'amuse beaucoup. Mais du coup, on n'a pas parlé du fond.
On
n'a
pas parlé de Di Maria. Et là, ça m'inquiète parce que vous avez oublié qu'il avait quelques difficultés à la cuisse.
Il était
sorti en première. Non, il était sorti à la première mi-temps contre Dijon. Et il ne faut pas oublier qu'au match aller, j'ai vu pas mal empathie. Alors que bon, Di Maria, il sent quand même la Champions League. C'est un joueur de Champions League. Il avait du mal avec Sagadou qui c'est un espoir français qui a été très solide, et je me dis c'est vrai que le temps des manques de jeu peut être embêtant pour un joueur comme ça, qu'il fallait vraiment qu'il ait du temps de jeu pour être plus en confiance.
En un mot, est-ce qu'il faut le jouer à huis clos ce match, ou est-ce qu'il faut espérer qu'il y ait des supporters?
Oh, mais non, il faut espérer qu'il y ait des supporters.
Moi je préfère qu'il y ait des supporters, c'est pas l'équité, pas l'équité.
Ah bah oui, un match de foot, il faut qu'il y ait des supporters.
Il faut espérer qu'ils soient emportés, que Paris puisse se préparer,
que tout le monde puisse revenir à son niveau. Allez, on se retrouve juste après la pub. Les infos pour la deuxième partie, on parlera Ligue 1 notamment et le risque d'un effondrement de l'OM. Est-ce réel ou pas? Le matelas est encore confortable.
RTL, on refait le match.
Il est 19h. Toute l'info avec Alexandre de Saint-Aignan.
Un troisième cas de coronavirus à l'Assemblée nationale, selon les informations de RTL. Il s'agit d'une députée de la majorité, Elisabeth Toutu-Picard, 7e circonscription de Haute-Garonne. Elle est actuellement hospitalisée. Son cas vient s'ajouter à ceux d'un député LR et d'un employé de l'Assemblée. Nouvelle réunion coronavirus demain soir à l'Élysée. Un conseil de défense autour d'Emmanuel Macron. Ce sera un point de situation. Pas question a priori de passer au stade 3, selon l'entourage du président. On est toujours au stade 2 pour l'instant, avec des mesures quand même renforcées dans l'Oise et le Haut-Rhin, où les écoles et les crèches vont rester fermées la semaine prochaine. Les services de santé se tiennent prêts à activer le plan blanc. On comptait à la mi-journée 716 contaminations en France et 11 morts. Le virus qui se propage également en Corse, où les candidats aux municipales ont décidé d'annuler leur meeting de campagne pour limiter les risques de circulation du coronavirus. Plusieurs événements culturels et sportifs ont également été annulés dans l'île. L'Italie, elle, passe ce soir la barre des 200 morts et presque 6000 cas confirmé essentiellement dans le nord du pays. C'est le troisième pays le plus touché au niveau mondial derrière la Chine et la Corée du Sud. Face à l'épidémie, exceptionnellement, le pape François prononcera sa traditionnelle prière de l'Angélus, non pas depuis sa fenêtre du Vatican qui donne sur la place Saint-Pierre, mais dans sa bibliothèque où il sera filmé, retransmis en direct sur Internet. Malgré les aveux de Michel Fournier et la famille d'Estelle Mouzin reste sur ses gardes. Joint par RTL, le père de la fillette disparue en 2003 refuse de s'exprimer pour l'instant. Le tueur en série a reconnu les faits devant le juge. juge pour la première fois dans cette affaire où il est mis en examen. On ne sait pas si Michel Fourniret a donné ou non des indications sur la localisation du corps et sur le déroulé des faits. Le niveau de l'eau monte, notamment dans la capitale. La mairie annonce des mesures face à la crue de la Seine qui doit encore gagner 40 cm d'ici lundi. Les voies qui longent le fleuve ont été fermées. Des sans-abri hébergés sur une péniche ont été transférés vers deux gymnases dans les 13e et 15e arrondissements de Paris. Le football, conséquence de l'épidémie de coronavirus, le match reporté entre Strasbourg et le PSG. Il était prévu cet après-midi. Les 5 autres rencontres sont maintenues ce soir. Vous pourrez les suivre dès 19h30 dans le multiplex RTL avec le Parisien aujourd'hui en France. Et puis en Ligue 2, l'AC Ajaccio a battu Lorient cet après-midi. 1-0. C'est la 4e défaite en 5 matchs pour les Bretons. Pourtant toujours leader, mais les Corses sont 2e à 2 points derrière. Et puis en rugby, l'Angleterre affronte le Pays de Galles dans le tournoi des 6 nations. La 2e période a commencé et les Anglais sont toujours en tête. Ils mènent 23-16 désormais, 50 minutes de jeu. La météo, retour d'une nouvelle perturbation dès la nuit prochaine. Le vent se renforce près de la Manche avec des nouvelles pluies sur la Bretagne et sur le Cotentin. Demain, il va pleuvoir sur une grande partie de la moitié ouest, du nord de la Seine jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. Un temps nuageux à l'est et puis du soleil voilé près de la Méditerranée. Les températures pour demain, il fera 10 degrés à Strasbourg, 11 à Paris, 12 à La Rochelle, 13 à Toulouse, 15 à Marseille et 16 degrés pour Biarritz. 19h03 sur RTL. C'est la suite d'On fait le match avec vous, Eric Silvestro.
Merci beaucoup Alexandre. La deuxième partie en effet jusqu'à 19h30 avec le risque d'un effondrement de l'OMS bien réel ou pas après son match nul 2-2 face à Amiens et sa défaite au Vélodrome contre Nantes un petit peu auparavant. Quelles équipes pour jouer le podium au-delà de Rennes, de Lille? Est-ce que Lyon, Monaco, Montpellier peuvent revenir dans la partie? Comment interprétons-nous le pétage de plomb, on peut le dire comme ça, d'André Villas-Boas hier avec l'arbitre Monsieur Le Texier qui lui a valu un carton rouge au coup de sifflet final de la partie? Et puis Mbappé et Neymar privés de Jeux Olympiques, quelles conséquences pour eux et pour le Paris Saint-Germain? C'est le menu de la seconde partie d'On refait le match.
RTL, on refait le match.
RTL, on refait le match. Éric Silvestro.
Dans 25 minutes, vous avez rendez-vous avec le multiplex RTL, le Parisien aujourd'hui en France, Christian Olivier, Philippe Sanfour, Giovanni Castaldi. Mais d'abord donc, la seconde partie dont on refait le match avec Sébastien Tarago de la chaîne L'Équipe, David Aiello de Yahoo, Cindy Colmenares et Bruno Constant, notre voix anglaise. On va parler de la Ligue 1, du championnat et de l'Olympique de Marseille, toujours solide deuxième du championnat, mais qui a une nouvelle fois fait une contre-performance à domicile après la défaite contre Nantes. C'est un match nul hier soir face à Amiens, 2-2. Vous l'avez vécu évidemment sur RTL, l'OM qui menait 2-0, qui s'est compliqué la vie. L'OM est-il un peu va-t-il suffoquer, va-t-il s'effondrer, Bruno Constant? On peut peut-être imaginer.
Pour moi, c'était assez prévisible. Quand tu fais une séance d'invincibilité de quoi, 16 matchs, 17 matchs, quelque chose comme ça, forcément, à un moment donné, ça va s'arrêter. Et forcément, il y a des conséquences derrière. Savoir comment tu vas gérer l'après première défaite et l'après où tu rentres un peu dans le doute, etc. Et ce qu'on voit sur les derniers matchs, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il y avait un Marseille qui était très serein depuis quelques mois. Et depuis quelques semaines, c'est beaucoup moins le cas. On a un joueur comme Amavi qui déclare dans l'équipe qu'il est prévenu qu'il fasse attention à ses fautes, qu'il fait trop de fautes, trop de cartons, etc. Au bout de 10 minutes, il fait une énorme faute qui est totalement stupide, un geste totalement stupide qui va tacler. Je ne sais pas pourquoi il le fait, il peut prendre un rouge.
Il doit prendre un rouge.
On voit Payet qui se fait avertir sur un coup franc qui est en sa faveur, sur un positionnement de ballon. C'est totalement débile.
Parce qu'il a reculé deux fois le ballon pour avoir plus d'angle. Et M. Le Texier lui a dit une première fois et la deuxième, il a mis le carton.
Etc., etc. Et puis surtout, on a Villas-Boas. Villas-Boas, qui était la sérénité absolue de l'Olympique de Marseille depuis le début de saison, et qui, après Nantes, qui pète un plomb, qui frappe dans la porte du vestiaire, qui là va s'embrouiller avec l'arbitre à la fin du match, alors que, honnêtement, sur l'ensemble du match, c'est à peine mérité ce match nul. Ils ont mené contre le cours du jeu, c'était hallucinant.
C'est vrai qu'il a
ils
parfaitement...
Ils sont en train de perdre un peu les... Non, mais j'ai l'impression qu'ils perdent un peu les...
Mais justement, je pense que tous les points que tu as soulignés, Bruno, on peut les mettre en relief avec ce qui se passait avant. C'est-à-dire que jusque-là, l'OM évoluait sans pression, ils étaient là, bon, on n'attendait pas énormément d'eux, en tout cas, on était dans l'expectative de savoir ce qu'allait faire Villas-Boas. Rapidement, on a vu qu'il était cohérent et que ça portait ses fruits. Et là, ils se sont retrouvés dans un nouveau rôle qui était celui maintenant de favori à la qualification.
Mais ils ont pas de pression, ils avaient 9 points d'avance.
Tu te retrouves, ouais, mais tu te retrouves,
c'est quoi?
C'est plus la même situation.
Si là, ils ont la pression avec 9 points d'avance, qu'est-ce que ça va être quand ils vont avoir 3 points ou 2 points d'avance?
Ils ont toujours, même si Rennes et Lille ont un match en moins, 9 points sur Rennes et 10 sur Lille.
Oui, mais il suffit que Rennes batte Montpellier, ils sont à 6 points.
En saison, on parlait pas du tout. En début de saison, on n'était pas dans cette optique-là. Là, on a commencé clairement à en parler, et c'était normal vu le.
Il y avait aussi une part de réussite dans la saison de l'OM. André Villas-Boas a fait du super boulot avec le matériel qu'il avait. Il y avait pas mal de scénarios favorables aussi. L'OM n'a pas toujours brillé dans le jeu, mais a eu des résultats. Mais là, c'est vrai que le geste de Villas-Boas, son attitude à la fin du match, elle est, je dis pas incompréhensible, mais presque, Sébastien.
Non. Sauf si c'est calculé, qu'il envoie un message à ses joueurs, oui. Je suis avec vous, il y a de l'injustice, on va se révolter, tout est possible. Oui. Tout est possible parce que je trouve qu'il a très vite retrouvé son calme.
Il
est très vite redescendu dans ses déclarations, 5 minutes après.
Très intelligemment d'ailleurs.
Mais oui, sauf si tout est calculé.
Si c'est calculé, c'est intelligent.
Mais après, je suis pas d'accord avec vous sur le jeu et sur enfin l'Olympique de Marseille début de saison. C'est faible.
Oui, mais il y a de la réussite.
C'est que je alors que, c'est alors que, faible, alors que,
bah,
alors
sur le dernier mois, oui.
Alors que vous dites que l'effectif est très moyen. Moi, je pense que Villas-Boas, il a pas non plus un effectif catastrophique. Faut pas exagérer.
Je suis d'accord.
Et oui. Donc, il est.
Non, mais
deuxième.
Quand on prend l'effectif, que,
il a sans doute le troisième effectif de France, à mon avis.
Troisième, quatrième. On peut en débattre. C'est pas grave.
Je veux dire, c'est pas incroyable ce qu'il réalise. Et c'est un garçon qui. Très intelligemment, si vous le voulez, joue le béton. Je suis désolé. C'est-à-dire que quand il va à Angers, il est.
C'était en début
il
de
met
saison,
un bloc
ça.
Bas. Non,
non. Non, c'était
il y a deux mois.
Oui.
C'était un bloc bas. Et il décide de donner le ballon à Angers. C'est, voilà. Donc t'es l'Olympique de Marseille.
Mais il a pas un attaquant qui met un but.
Mais il a pas un attaquant qui met un but.
Non, mais c'est normal.
Il a, excusez-moi, il a Germain, Thauvin, pardon, Germain, Payet, Benedetto. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs de Ligue 1 qui aimeraient avoir ça.
Oui, sauf que Benedetto marquait plus jusqu'à son triplé sans contre Nîmes. Que Germain, malheureusement, il travaille beaucoup, mais il marquait pas beaucoup.
Oui, mais enfin, la réalité, c'est que si vous donnez ce matériel à 90% des entraîneurs de Ligue 1, ils sont très heureux. Hein.
Oui, mais tu peux pas dire que Villas-Boas n'a pas tiré la quintessence sur l'effectif quand tu vois ce qu'il a fait.
Je suis pas d'accord. Sur la première partie de saison, moi, ça me choque pas qu'il fasse ce qu'il a fait. Qui bétonne, comme tu dis, je dirais pas qu'il bétonne, mais qui joue un peu plus prudemment et qui construit un bloc défensif pour être plus solide, ça me choque pas. Je suis d'accord sur la deuxième partie de saison, où effectivement tu t'attendais à une évolution qui a un peu plus de jeu, qui s'appuie sur ce bloc défensif pour élaborer un peu plus de jeu. Et on voit bien à domicile, de toute façon, les trois derniers matchs, c'était catastrophique à domicile.
Mais là, alors pour le coup,
parce qu'il faut faire un peu de jeu.
Exactement.
Et c'est le vide absolu.
Mais alors je vous repose la question, il reste 10 matchs. L'OM a 9 points d'avance aujourd'hui sur Rennes, peut-être 6 si Rennes l'emporte contre Montpellier, et 10 sur Lille. Est-ce que le calendrier, c'est quand même, il faut aller à Montpellier, il faut aller à Lyon, il faut recevoir Monaco, et il faut recevoir Paris. Est-ce que l'OM en 10 matchs peut s'effondrer parce qu'on est à la limite là, et est-ce que l'OM peut entre guillemets tout perdre? Alors que l'OM avait 12 points d'avance sur tout le monde.
Alors en Ligue 1, tout peut se passer, mais il est vrai que pour moi, les déclins de l'OM que j'ai commencé à voir, qui a commencé à m'inquiéter, c'est lors du match du 22 février contre Nantes. C'est à partir de ces moments-là, même si après, ils ont réussi des justesses à battre Nîmes, on s'est dit qu'à partir de ce moment-là, on voyait des choses qui n'allaient pas. Et là, qu'on l'a vu jouer face à Amiens, on a vu qu'il y avait des pertes de ballons, on a vu un Payet qui est un génial joueur, je l'aime beaucoup, mais que je réalise qu'il a Benedetto au point de pénalty, il ne lui passe pas les ballons, et donc du coup, bah, il y a pas but. Je sais pas, il y a certains gestes, certaines choses qui me font penser que il y a cette révolte, je pense, de la part de Villas-Boas. Je ne pense pas que ce soit une stratégie, je pense qu'il était vraiment très mécontent envers lui-même, il a perdu ses nerfs envers tout, et
mauvais,
après
hein,
la façon dont il a rattrapé, qui est tout à son honneur, c'est une façon aussi qu'il y ait moins de des sanctions peut-être par rapport aux gestes qu'il a pu avoir.
Il risque gros parce que deux fois contestation auprès d'un arbitre à la fin d'un match. Oui, mais enfin, j'imagine que.
Ça dépend de ce qu'il dit.
Ouais, le jaune sort peut-être un peu vite, mais le rouge.
C'est pas un échange d'ailleurs. L'arbitre ne répond même pas. C'est assez toujours étonnant ces situations.
Il a intérêt à rattraper son erreur.
La vérité, c'est qu'il a cru que le match était gagné.
Oui, bah 2-0.
Hein, bah, mais il a cru que le match était gagné. Il s'est dit allez, hop, on va faire applaudir.
Thauvin.
On va faire rentrer Thauvin. On va faire
applaudir. Non, mais c'est les cas de
les joueurs. Si on sort, et c'est terrible.
C'est terrible parce que ça se retourne contre les joueurs aussi. On fait preuve de naïveté parce que il reste 30 secondes à jouer. T'as un ballon de contre et tu as Benedetto qui se retrouve à vouloir t'en jouer.
C'est vrai, mais juste avant, il
s'est planté sur les changements. Mais il s'est planté sur les changements surtout. Il lui-même le reconnaît. Il ne doit pas sortir Payet, c'est pas possible. Tu ne sors pas Payet dans une fin de match comme ça.
Tu n'as
pas
son meilleur joueur.
Tu peux pas garder deux attaquants et Benedetto qui touchait pas un ballon et Germain.
Surtout quand tu joues un match par semaine.
Après, pour en revenir à la question, quand même, je pense que le match à venir là, face à Montpellier va être quand même.
Déplacement week-end prochain et après il y a le PSG.
On a Montpellier qui est pas très loin, Marseille qui on vient de le décrire est quand même sur une dynamique dans le jeu assez incertaine. Derrière tu reçois le Paris Saint-Germain, c'est clairement un résultat qui va aller.
Mais moi je pense qu'ils vont vraiment remonter la pente parce que vous avez mentionné un prénom qui a tout un sens à l'OM, c'est Thauvin. C'est vrai qu'il arrive aussi à fédérer parfois ses coéquipiers, il apporte au collectif.
Oui, mais il va pas revenir à les matchs.
Clairement pas.
Sur lui quoi contre Brest dans trois matchs quoi, parce que là Montpellier Paris ça va jouer intense quand même.
Je vois pas l'OM s'effondrer, parce qu'après il faut aussi parler des niveaux des autres équipes. Là actuellement en Ligue 1, qui je vois des, qui soit assez fort, c'est l'OL.
Ils sont à
16 points, mais qui revient quand même assez fort. Rennes qui maintient bien sa place, mais je vois pas s'effondrer l'OM. Non, donc c'est ça.
16 points en 10 matchs, ça fait beaucoup, sachant qu'il joue à Lille. Il joue à Lille demain.
Non, mais s'effondrer, moi, l'OM, oui, c'est tout à fait possible qu'il s'effondre. Parce que c'est fragile depuis le début, c'est sur un fil. Mais quand on regarde les 4 équipes qui sont derrière. Qui nous dit qu'ils vont enchaîner des séries de victoires, qui vont remonter les 7, 8, 9, 10 points.
C'est pour ça qu'on
Déjà cette journée, on va savoir pas mal, parce que les 4 équipes se rencontrent. Entre Rennes-Montpellier et Lille-Lyon, il y a déjà 2 équipes qui vont au moins perdre des points, si ce n'est 3.
Et on n'oublie pas, parce qu'on n'en a pas parlé, la menace de l'UEFA, le fair play financier.
Ça, c'est encore autre chose. C'est important, parce que c'est ça. Mais
s'il n'y a pas la Ligue des Champions,
je ne pense pas que l'UEFA, j'ai entendu pas mal ces rumeurs, mais je ne pense pas qu'ils vont aller jusqu'à sanctionner.
Moi, je pense qu'ils vont
sanctionner City.
C'est ça, c'est
toujours. Ils ne vont pas gêner City.
Non, mais
l'OM, ils s'en fichent complètement.
Bon, en tout cas, l'OM, pour rebondir, ne peut compter, désolé, mais financièrement, sur la Ligue des Champions.
Sur le plan sportif depuis le début de saison, sur quoi repose l'Olympique de Marseille?
Solidité, milieu de terrain. Le duo Rongier-Sanson, il a trouvé un truc avec Camara.
Oui,
voilà. Pour moi,
il repose essentiellement sur Mandanda et Payet.
Aussi, Mandanda.
Et avez-vous vu Mandanda et Payet au cours des dernières semaines?
On les a vus sur le terrain.
D'accord. N'avez-vous pas été surpris par une certaine évolution physique par rapport à un début de saison où ils étaient en pleine forme?
Qu'est-ce que tu veux dire du coup?
Eh ben, je veux dire,
tu veux dire que les fêtes sont passées par là?
Oui, et que Mandanda qui était extraordinaire
sur Neymar aussi, on m'a dit, hein,
comme jamais en début de saison.
On mange bien,
il a eu du mal à tenir la distance, et je peux le comprendre, mais il est moins bien, et ça se ressent sur ses performances. Et Payet est lui aussi moins bien, et d'ailleurs le choix des maillots de l'Olympique de Marseille ne lui rend pas grâce.
Je note qu'en tout cas dans cette émission, il est 19h16,
on parle beaucoup fringues.
Nous sommes optimistes pour le Paris Saint-Germain, nous sommes optimistes pour l'Olympique de Marseille. Les deux clubs qui sont premier et deuxième du championnat nous donnent une espèce de vague euphorique.
Vous nous parlez pas de Rennes, pas de Lille, pas de Lyon.
Mais si, on va parler juste après la pub.
Positif, hein.
À tout de suite.
RTL, on refait le match.
RTL.
On refait le match.
Éric Silvestro.
19h19, nous sommes avec Sébastien Tarago, David Aiello, Cindy Colmenares et Bruno Constant. Avant d'évoquer Mbappé, Neymar privé de JO, on veut apporter un peu de positivité après Marseille et le Paris Saint-Germain. Donc Lille, Rennes, Montpellier, Lyon, Monaco, qui va nous redonner le sourire dans la course
Lyon.
Au poignard?
Mais qui nous donne le sourire en ces moments en regardant un match? Moi je trouve Lyon. Enfin moi c'est plus particulièrement Guimarães.
C'est parce que voilà, Guimarães, vous êtes sud-américaine.
Non mais c'est vrai, parce que souvent on dit ah oui, les Sud-Américains, ils mettent 6 mois à s'adapter. C'est un joueur qui est arrivé. Qui s'est adapté au niveau du milieu des terrains, a apporté quelque chose.
Sur la durée.
Ce n'est pas. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte. Ce n'est pas forcément par rapport à l'Adier, c'est la façon dont il a changé les visages de l'OL. Il réussit. Pas lui. C'est pas lui tout seul en tant qu'individualité qui brille, mais il réussit à faire briller ses coéquipiers. Et ça, en football, ça vaut.
Tu parles du match contre Paris?
Tu prends vraiment l'exemple, les seuls exemples où à la fin il était cramé.
Je le connaissais pas très mal, comme la plupart d'entre nous. Franchement, c'est formidable. Je suis content que dans le foot d'aujourd'hui, il puisse encore y avoir des joueurs comme ça.
Et qu'on arrête de nous bassiner.
S'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui jouent au foot, regardez ce qu'il fait quand il a pas le ballon.
À 23 ans.
Regardez ce qu'il fait quand il lâche le ballon. Tout de suite, la disponibilité qu'il a, toujours une possibilité de passe pour son coéquipier, c'est extraordinaire.
Moi, j'adore.
Je sais pas si ça va durer,
mais non, c'est extraordinaire.
Petit message à Rudy Garcia, il est quand même jeune, il vient quand même d'arriver, même s'il a
pas les
parce que deuxième mi-temps, il n'arrive
mais
plus
attention, il n'est pas, méconnu au Brésil. Au Brésil, il est capitaine de la sélection
argentine.
Tite l'a sélectionné aussi pour les deux matchs des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, donc c'est pas un inconnu, en tout cas ailleurs, c'est un inconnu en France, qui s'est maintenant très bien faire connaître. Je me demande s'il y a un joueur sud-américain récemment, et surtout arrivant dans un mercato d'hiver, qui est surtout les mercato un peu de où on vient combler les petits trous ou les choses qui vont pas. Oui, est-ce qu'il y a un joueur comme ça qui nous a autant ébloui sud-américain.
Tite, c'est le sélectionneur qui s'appuie sur Thiago Silva, c'est ça, hein.
D'accord. Il parlait pas de Lille.
Il faut quand même reconnaître, parce que je sais que Sébastien a la dent dure sur Juninho. Faut quand même.
Ah non,
c'est quand même un énorme coup de Juninho.
Tout à fait.
Oui, c'est son coup
aussi de l'avoir convaincu de venir.
Parce que sinon, il allait à l'Atlético.
C'est un joueur qui était capitaine de la sélection.
Absolument. Je pense que c'est pas que lui qui transforme Lyon. Moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose depuis le match contre la Juve, où psychologiquement, il y a quelque chose mentalement qui s'est passé. Il y a eu un déclic, et c'est plus du tout la même équipe depuis.
Ouais. Merci à la Juve aussi, qui était un peu comme le Real en début de saison.
Mais après, quand
t'as
un joueur comme ça qui simplifie le jeu, qui le fait.
Vous savez ce que j'ai remarqué aussi contre la Juve, j'ai remarqué les caractères d'un joueur comme Aouar. C'est quelque chose qui me dérange chez ces joueurs, c'est qu'il peut être assez irrégulier et qui vraiment, il marche quand il est piqué à vif. Et clairement, un match des Champions League, l'aimer dans les bonnes conditions. Et à partir de ces moments-là, quand les joueurs arrivent à se transcender par rapport à ses capacités, c'est vrai qu'on voit un Lyon complètement transformé. Moi, je suis très contente et je pense que aussi, ça repose sur Juninho par rapport à Guimarães, mais ça repose aussi sur les présidents du club, qui est quand même toujours là, qu'on l'aime ou pas. Alors, ça porte quelque chose.
Je note que vous aimez les paillettes, les grands clubs, les non-connus. Lille fait son petit boulot de chemin encore et impressionne, et personne n'en parle.
Ouais. Ben, on le saura.
Alors moi, je veux parler de Lille, parce que Lille, mine
demain.
De rien, on les
on
a aussi.
On le saura demain. Moi, je pense qu'on le saura demain. Pour moi, c'est l'équipe la plus cohérente derrière Paris et Marseille. La plus régulière, celle qui a le jeu le plus établi.
Et Rennes,
on sait comment ils jouent, on connaît leur force. Pour moi, c'est ceux qui vont terminer sur le podium. Mais tout peut se passer demain, surtout.
Lille-Lyon, sur RTL, évidemment, en intégralité dans ce soir de Ligue 1.
Pour moi, Lyon est tout à fait capable d'aller s'imposer à Lille et de mettre Marseille dans un fauteuil.
Attention,
c'est impératif pour l'Olympique Lyonnais.
En 15 jours.
En plus,
il faut que pour l'Olympique Lyonnais, c'est impératif d'aller gagner à Lille.
Ouais.
Là, franchement,
ils sont à 7 points du podium.
Bon, ok, il y a eu le 5-1 contre le PSG, mais avec une très bonne heure de jeu. Si entre la Juve, Lille, si tu gagnes, ça fera un sacré quinzaine hein,
Là, ça aurait vraiment du sens. Parce
plus Saint-Etienne, le dernier.
Vous disiez qu'il faut donner du temps au temps, vous avez raison, évidemment. Et il faut aussi appliquer cette maxime pour l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que c'est un peu tôt pour savoir si l'Olympique Lyonnais est complètement guéri. Ouais, si demain l'OL allait s'imposer
dans contre Lille,
alors là oui.
Dans trois matchs importants comme la Juve, Paris et Saint-Etienne.
Oui, mais Paris t'en prend 5 quand même, même s'il y a des circonstances.
Ouais, mais pendant une heure, ils sont meilleurs que le PSG, il faut le reconnaître aussi.
Bien sûr.
Ouais. Bon. Pas un mot sur Montpellier, non, c'est quand même un peu loin. Mais attention, Montpellier, ils vont jouer les arbitres. Ils vont jouer plusieurs équipes dans les 4-5.
Bah, j'adore Montpellier. Si vous voulez qu'on parle de Montpellier, on peut parler de Montpellier.
Je veux bien vous en dire.
Non, mais moi j'adore la personnalité qu'il peut y avoir dans ces équipes, parce que c'est presque, je suis un peu naïf, mais c'est presque le foot à l'ancienne. Moi j'aime Andy Delors.
Moi aussi.
J'aime ces garçons-là qui sont pas bourrés de talent, mais qui ont un état d'esprit que je trouve absolument remarquable. Ça se voit qu'ils aiment le foot, vraiment le foot. Il y a des joueurs comme Savagnier qui, beaucoup de talent, mais qui pour des raisons personnelles ont voulu rester à Montpellier, aller à Montpellier, jouer à Montpellier, parce que ils sont pas dans le foot business.
C'est le coin, c'est la famille, gagner. C'est les barbecues.
Mais c'est comme ça. Après, on peut trouver ça idiot. On peut trouver. On peut dire oui, c'est un métier. Il faut aller là où le talent t'amène. Ben, eux, ils vont à Montpellier et je trouve ça beau quelque part que ça existe encore.
Fin de saison palpitante qui s'annonce en Ligue 1. Vous allez la vivre évidemment sur RTL. On marque une courte pause. Ensuite, qui ira au JO? Apparemment, pas Mbappé ni Neymar.
RTL, on refait le match.
RTL, on refait le match. Éric Silvestro.
Allez, il nous reste 3 minutes encore avant de passer la main à Christian Olivier, Philippe Sanfour, Giovanni Castaldi pour le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France. Je suis en train de jeter un œil à Dortmund, c'est la mi-temps. Hein, Mönchengladbach, toujours 1-0 pour Dortmund. Le but d'Hazard, très joli but d'ailleurs, frappe enroulée après un joli contrôle dans la surface. Les Parisiens doivent regarder ça tranquillement sur leur canapé ou au centre d'entraînement tous ensemble s'ils veulent se souder puisqu'ils n'ont pas joué à Strasbourg ce soir. On termine alors l'info à quelques jours, mais on n'en a pas encore parlé et je voudrais avoir votre réaction là-dessus. Neymar, Mbappé, privé de JO,
Alors,
et sans doute tous les joueurs de l'effectif du PSG et des grands clubs européens, on va y revenir, mais le PSG a dit niet, refus officiel de la demande de la fédération. Vous comprenez ou pas?
Ils peuvent les faire parce que juridiquement, c'est vrai que ça rentre pas dans les cadres des dates FIFA, donc ils peuvent effectivement prendre ces décisions. Mais après, il faut pas oublier que Mbappé a toujours laissé clair et net que pour lui, son objectif c'était de gagner. Un euro, bon, la Coupe du Monde, c'est fait. Un euro, et puis un JO. Donc, il n'a pas précisé que c'était celui de Tokyo, mais vous voudrez bien, il ne va pas attendre 2024 pour celui de Paris. Donc, je pense que la décision, en fin de compte, reviendra au PSG. Mais il ne faut pas oublier aussi que la fin de l'Euro 2020, c'est le 12 juillet. Après, les débuts des JO. commence les 24. En même temps, ça s'enchaîne avec les débuts de la Ligue 1. Donc, en fait, il y a pas mal des choses qui rentrent en compte. Mais il est aussi en renégociation des contrats. Oui. Donc, Mbappé peut aussi faire jouer un peu la pression en disant, tiens, de l'autre côté, il y a Zidane au Real Madrid qui dit que ça serait génial de jouer les JO.
Oui, mais il semblerait, Bruno, je me tourne vers toi, que tous les grands clubs européens vont prendre la même décision. Donc, il peut pas dire, tiens, moi, je vais au Real parce qu'il me laisse jouer les JO, puisque le Real
le fera peut-être. Mais moi, ceci dit, je suis pas du tout convaincu que la position parisienne soit définitive et qu'on soit même pas dans une espèce de partie de poker menteur. On a commencé par une position très ferme en disant, mon grand, tu ne partiras pas, et que ça soit un levier pour
je pose juste la question. J'ai pas totalement la réponse. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté commune des clubs d'avoir une position identique
sur ce thème? Ce qui va peut-être sauver le PSG
Par rapport à tous les grands joueurs entre guillemets qui veulent jouer les JO. Moi, je peux comprendre. Je suis comme vous. J'aimerais bien voir Mbappé aux Jeux Olympiques s'ils ont lieu. Mais je peux comprendre la position d'un club qui dit. Alors on va perdre Mbappé, on va perdre Neymar, parce que pourquoi accepter?
Tu t'acceptes pas de le faire aller au JO et de le faire venir en même temps.
Alors le premier mois de championnat, tu les mets en vacances, en prépa, qu'est-ce que ça peut faire? Tu gagnes le championnat avec 20 points d'avance tous les ans.
Mais il les paye 3 millions par mois.
D'accord, mais si ça lui permet de prolonger.
C'est un argument pour faire venir Mbappé au Real.
Et surtout, vous savez bien. Non, mais Mbappé, il ne faut pas non plus le prendre pour un idiot. Il ne va pas faire un choix de carrière. Tu disais les JO de Paris. Je pense que le fait que ce soit les JO de Paris à Paris, en France, ça peut aussi l'encourager.
Bruno, moi, je sais pas, je suis partagé sur la question. Je trouve que les clubs, enfin l'Olympe, enfin je sais pas, on dit toujours le fric. Là, c'est une façon idéale de dire, bah tiens,
non,
on est aussi ouvert.
Mais c'est vrai,
non, mais par rapport à la communication,
mais bien sûr, pour ta com, tu dis à tes joueurs, tu peux faire les JO, ils viennent, ils prolongent, tout le monde te dit trop.
C'est vrai qu'il y a peu d'argent.
Non, mais regardez par rapport à la situation que le PSG a vécu, par rapport à Neymar, de ne pas laisser partir des machins. C'est vrai qu'au niveau de la communication, ils ont été pas mal affectés, je suppose. Bah, maintenant, il y a la possibilité de dire, bah, regardez, chez nous, on laisse aussi, on libère les joueurs pour qu'ils puissent faire et remplir leur objectif. Et bah, pourquoi pas, c'est une bonne image.
Regardez, Christian Olivier, c'est le patron. Il est dans le casting, il est dans la pré-liste.
Et vous n'y êtes pas, vous?
Bah si, mais j'ai pris le patron, je voudrais pas que ça change tant que la liste n'est pas déposée officiellement.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir Christian.
Ravi de vous retrouver. Programme éclectique et qui pourrait devenir électrique ce soir. Avec Thierry Henry, tout de même en guest star, dans moins de 5 minutes. Avec France-Brésil.
Ah oui, féminin.
France féminin,
France,
bien sûr. Et avec Nice-Monaco, tout de même. Nice-Monaco.
Le derby de la Côte d'Azur.
Angers-Nantes, Reims-Brest, Metz-Nîmes, Dijon-Toulouse. Bref, on va se régaler.
Le multiplex RTL, le Parisien joue en France. Merci à Cindy Colmenares, David Aiello, Sébastien Tarrago et Bruno Constant. Très bonne fin de soirée à l'écoute de RTL.
Bye.
RTL. On a tellement de choses à se dire.